Radio Cité Genève
92.2.
92.2.
Salut, c'est les Griots. Nous sommes de retour pour une nouvelle émission.
En ce mois de juin, nous avons décidé de vous parler de l'école inclusive.
Mais c'est quoi juste l'école inclusive ?
Est-ce que les enfants avec un handicap peuvent être intégrés dans le système scolaire normal ?
Si oui, quelles sont les conditions ? Comment ces jeunes vivent leur intégration ?
Quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent ?
Nous tenterons de répondre à ces questions et à quelques autres.
Restez avec nous. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de ces élèves à travers leurs témoignages et celui des adultes qui les accompagnent au quotidien.
Radio Cité Genève.
92.2.
92.2.
Bonjour Célia, bienvenue. Tu as 18 ans et tu es porteuse d'un trouble infirmité motrice cérébrale qu'on nomme aujourd'hui paralysie cérébrale. Tu es en formation à l'école de culture générale Henri Dunant. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions.
Peux-tu nous expliquer en quelques mots en quoi consiste ton trouble et comment cela impacte ton quotidien ?
Alors en fait, mon trouble, si vous voulez, c'est une forme de dyscalculie. C'est un trouble que j'ai eu depuis la naissance. Et alors j'ai de la chance, ça impacte pas vraiment mon quotidien, si ce n'est pendant les cours de maths. Du coup, c'est vraiment pour les maths, mais dans mon quotidien, j'ai de la chance. Oui, je suis tout à fait indépendante. Ça n'impacte pas vraiment mon quotidien, si ce n'est que c'est juste, un espèce de... Oui, ça se peut se manifester juste pendant dans le milieu scolaire, mais voilà, avec l'aide que je reçois justement en appui, j'arrive tout à fait à vivre avec. Il y a plusieurs formes de dyscalculie. C'est comme une espèce de dyslexie, mais pour les nombres. Ça se manifeste souvent. Par exemple, j'ai du mal, par exemple, à lire un énoncé, et j'ai aussi de la peine à suivre, en fait, faire un exercice jusqu'au bout. Mais quand on va doucement, que je prends le temps de bien comprendre, voilà, j'arrive à passer au-dessus. Mais voilà, c'est sûr que ça nécessite un enseignement un peu plus spécialisé.
Peux-tu nous raconter une journée type pour toi ? Est-ce qu'il y a une organisation spéciale ?
Pas vraiment. Enfin, oui, je me lève le matin et je vais en cours, mais je peux pas trop vous dire que c'est spécial entre guillemets. J'ai juste un traitement. Parce que j'ai subi une opération, mais plus pour mes jambes. Donc, en fait, si vous voulez, à part ce traitement le mercredi en piscine, j'ai pas vraiment de choses particulières à faire pendant la journée, si ce n'est aller en cours et faire ma journée et rentrer chez moi et retravailler et voilà.
Avec tes parents, est-ce que tu fais ce qu'ils appellent la crise d'adolescence ?
Alors, je pense que, effectivement, aucun ado sur cette terre est passé outre la crise d'adolescence. J'ai eu ma crise d'adolescence.
Est-ce que tu as des frères et sœurs ? Et si oui, quelle est ta relation avec eux ?
J'ai une grande sœur de 20 ans. Elle s'appelle Cynthia. On est vraiment super proches. Et puis, donc, elle fait une formation dans la psychomotricité. C'est toujours un domaine qui l'avait intéressée. Alors, peut-être que le fait que j'ai eu ce trouble, oui, peut-être que ça l'a peut-être plus motivée pour... oui, effectivement, j'ai envie de... Mais elle suit, par exemple, des enfants qui peuvent être atteints d'autisme. Peut-être que c'est moi qui ai influencé ce choix, ou je ne sais pas trop. Mais en tout cas, elle ne suit pas des élèves à besoins spécifiques. C'est peut-être plus dans le sens que c'est des troubles d'autisme.
Comment est-ce que se passent les cours pour toi ? Est-ce que tu as de bonnes notes ?
Alors oui, pour l'instant, voilà, j'ai des bonnes notes dans l'ensemble. Ça va, voilà, c'est juste pour les maths où je suis un peu moins large que les autres matières. Mais bon, voilà, on arrive à faire en sorte que ça aille, en tout cas.
Quel type d'aide est-ce que tu reçois pour t'intégrer dans l'école ?
Les seules mesures d'intégration, entre guillemets, c'est ce qu'on peut, avant que je rentre à l'école, par exemple, on peut prendre rendez-vous avec l'infirmière scolaire pour qu'elle soit au courant globalement de mes besoins, de voilà, est-ce que j'aurais besoin d'appui comme ce que j'ai, aménagement au niveau des mesures 10 pour peut-être avoir un peu plus de temps pendant les épreuves si besoin, peut-être éventuellement pour mon souci aux jambes, juste pour voilà, avoir si besoin de l'aide de mes camarades. C'est pas plus poussé que ça, on va dire. Je suis née prématurément, donc ça, oui, c'est à la naissance justement que j'ai eu ce souci. Maintenant, j'ai subi une opération, donc je marche un peu mieux, mais en gros, je suis née avec la jambe droite complètement à l'intérieur. Voilà, j'ai dû en fait faire une opération pour remettre tout ça un peu plus droit. Et en fait, voilà, si quand je dis souci aux jambes, c'est juste que voilà, ça se voit un petit peu quand je boite. C'est juste voilà pour ça que j'ai besoin de physio pour voilà pour maintenir un peu tout ça en place.
Est-ce que tu reçois ou est-ce que tu as déjà reçu des moqueries à l'école ? Si oui, comment est-ce que tu as géré cela ?
Pas maintenant, voilà, c'est vrai qu'en grandissant, voilà, ça m'a c'est vrai que ça a changé mon quotidien d'avoir cette opération, de pouvoir mieux marcher. Les gens qui pouvaient éventuellement se moquer, ben voilà, juste pas trop y prêter attention, et même le silence, c'est le meilleur moyen de répondre. Des fois on gère ça, on en parle, et puis après on se dit bon bah ça arrive, et puis voilà. J'avais plus tendance à me faire de la peine, mais pas pour moi, mais plutôt pour eux. Et puis après, avec le temps, ben, ça passe. Et puis maintenant, voilà, je suis plus peut-être à l'école vraiment, ou primaire, mais maintenant, non.
Est-ce qu'il y a des enseignants qui ont essayé de dire quelque chose, de te défendre?
Alors en fait, oui, bien sûr, c'est arrivé, et après voilà, ça a été beaucoup mieux. Puis disons que j'allais moi-même me défendre, mais oui, voilà, si besoin, j'allais en parler, mais voilà, ça m'a vraiment, après avec le temps ça passe, et puis même les gens qui se sont moqués sans vraiment savoir, après ils sont plus cool.
Y a-t-il des activités que tu ne peux pas faire comme les autres? Est-ce que cela te dérange?
Alors, les seuls cours où j'ai été dispensée, c'est voilà, les cours d'éducation physique. C'est la seule chose que j'ai pas pu faire comme les autres, parce que voilà, c'était un peu frustrant, parce qu'évidemment, quand on peut pas faire tout comme les autres, ben voilà, mais finalement on s'adapte. Mais voilà, c'est à peu près les seuls cours où j'ai pu, en fait, entre guillemets, voilà, j'ai dû être dispensée. Et puis si j'ai en fait à l'école ce qui s'appelle l'EPI, c'est juste en fait voilà, pouvoir se dépenser, mais de manière individuelle, avec un enseignant qui de gym, qui voilà, donne des conseils.
Qu'est-ce que tu fais durant ton temps libre?
Alors durant mon temps libre, ben déjà, bon bah voilà, je suis dehors avec des amis, voilà, ça c'est voir mes amis, c'est un truc vraiment que j'apprécie faire. Je fais aussi un peu de cheval des fois, de la grimpe, voilà, où je lis, où je regarde des séries.
Quels sont tes projets pour l'avenir?
Alors mes projets là, donc l'année prochaine, je compte faire ma matu en social, et je pense que je vais me diriger vers un métier comme par exemple dans la petite enfance, ou peut-être aider les jeunes qui ont aussi quelques petits soucis, enfin voilà, un métier dans le social en tout cas. Après quoi exactement, je dois encore réfléchir pour les détails, mais en tout cas je compte faire ma matu l'année prochaine.
Je te remercie Célia, c'était un plaisir de partager ce moment avec toi. Je rappelle que tu es porteuse d'un trouble IMC et que tu étais dans l'émission des griots de l'espace entreprise pour nous parler de ton intégration à l'école.
Radio Cité Genève
92.2.
Vous êtes bien sur Radio Cité Genève et vous écoutez l'émission des griots de l'espace entreprise.
Aujourd'hui, nous vous parlons de l'école inclusive et comment les jeunes avec un handicap sont intégrés dans l'école publique.
Comment se passe la vie de ces étudiants presque comme les autres?
Nous avons récolté quelques témoignages de jeunes possédant un handicap, ainsi que celui des adultes qui les entourent.
Madame Quentin, vous êtes responsable du secteur des élèves à besoins spécifiques, du secondaire 2 au département de l'instruction publique depuis maintenant 3 ans. Madame Quentin, quel est votre périmètre d'action pour agir en faveur de l'inclusion des jeunes avec un handicap à l'école, et en quoi consiste votre travail?
Je dirais que ce secteur, enfin, s'était mis en place pour aider et soutenir toutes les écoles, parce qu'au secondaire 2, on a beaucoup de filières, beaucoup d'établissements. Hein, ça passe du collège, de culture générale, du centre de formation professionnelle, pour aider et soutenir ces écoles à mettre en place des mesures d'aménagement, comme on appelle, pour les élèves qui ont des troubles d'ordre très variés, et pour les aider à mettre en place ces aménagements qui peuvent être parfois plus conséquents que d'autres. Donc nous, on est là, on veille aussi à une équité. Ça veut dire que on aimerait que les élèves ils soient traités de la même manière. Je suis pas un élève malentendant, qu'il soit traité de la même manière dans cette école de culture générale que dans ce collège. Donc, en ayant une position un peu au-dessus, comme ça, on a cette vision, hein, on voit un peu ce qui se passe. Puis, on est aussi vraiment des personnes ressources. Donc, j'ai 3 collaborateurs, dont une qui va vraiment dans les écoles. Et vraiment, là, les doyens, les enseignants, ils peuvent nous solliciter quand ils rencontrent un problème, quand ils savent pas comment faire, etc., quoi. Je pense peut-être qu'il est différent par rapport à l'école inclusive, hein, qui se passait pas comme ça. C'est ceux qui sont porteurs on appelle des TSA, des troubles du spectre autistique. D'accord? C'est des enfants, des jeunes qui ont ce trouble-là, qui est très particulier parce que, alors certains, ça entrave les aspects cognitifs, ceux-là, on ne les voit pas. Mais pour certains, ils sont même très doués dans certaines matières, comme les branches scientifiques, etc. Mais ils ont vraiment un trouble de la relation. Hein. Ils ont beaucoup de peine à entrer en relation. Ils n'ont pas du tout les mêmes projections, les mêmes représentations que nous. Et là, c'est des élèves qui, avant, je pense, allaient beaucoup plus vite dans des structures spécialisées. Et là, maintenant, on en a beaucoup qui arrivent au secondaire 2. Ça veut dire qu'ils traversent l'école primaire, qu'ils traversent le cycle d'orientation et qui, voilà, qui arrivent chez nous. Ça, je pense que c'est nouveau.
Combien de jeunes avec un handicap sont inclus dans les écoles genoises aujourd'hui?
Donc, je ne sais pas. Par exemple, je vous donne les déficiences auditives, ça veut dire les malentendants. On en a 25. Ce qui concerne les aspects de malvoyance, déficience visuelle, 18. Problème de IMC, c'est-à-dire de problème moteur cérébral, il y en a 7 ou 8. Puis après, il y a des jeunes gens qui ont eu des accidents assez importants. On a 5 ou 6. Enfin, je ne sais pas. En tout, je dirais qu'on a une petite centaine, vous voyez, de ces gros troubles. Enfin, des choses qui viennent entraver la motricité, qui viennent entraver les perceptions, voilà, où vraiment il y a des aménagements importants à mettre en place.
Nous avons vu aussi qu'une des priorités de notre magistrate, Madame Emery Torasanta, était l'école inclusive. Pourquoi est-il si important selon vous ?
Alors c'est selon moi, hein, c'est mon avis personnel. Bah, l'école inclusive, c'est vraiment de donner une chance à tous les élèves, quel que soit ben justement leur trouble, quel que soit leur environnement familial, quel que soit leur environnement social, leur donner à tous la même chance de pouvoir certifier, de pouvoir faire un parcours de formation dans les conditions les plus sereines possibles. Donc l'école inclusive, elle est venue un petit peu, c'est un concept, hein, c'est une pensée, l'école inclusive. Alors après, elle est venue mettre en place de manière concrète des choses pour que tous les élèves puissent avoir accès à la formation.
Est-ce que tous les handicaps sont acceptés dans les écoles?
Oui, bien sûr. Ici, vous êtes dans le secondaire 2, d'accord? Donc ça veut dire qu'on a des conditions d'admission dans les différentes filières, mais qui ne sont pas liées au handicap ou au trouble. Du moment que l'élève est admissible à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on a évalué que dans ses compétences, il allait pouvoir faire une formation commerciale, il allait pouvoir faire une maturité, etc. À ce moment-là, bien sûr, quel que soit son handicap, il est intégré. Oui.
Les situations individuelles sont multiples et diverses. Quels sont les moyens mis à votre disposition pour assurer votre mission?
Alors, peut-être que dire à la base de tout ça, on a la loi. Donc ça c'est la base. Et puis après qui nous appuie. Alors moi par exemple dans chaque école, on a un doyen qui est référent, c'est-à-dire une personne qui est référente des élèves à besoins spécifiques de l'école, qui va être notre interlocuteur parce qu'il connaît bien les élèves, etc. Donc on va pouvoir discuter avec lui. Puis après on a les organismes extérieurs, on a le CESM, bon, qui s'appelle plus le CESM maintenant, mais ça c'est justement qui s'occupe des élèves malentendants, le CADV pour les élèves malvoyants, on peut avoir tout à coup des ergothérapeutes, on travaille beaucoup en réseau. Et ce réseau-là, il vient nous aider, nous appuyer à mettre en place les choses qu'il faut pour l'élève.
Nous avons vu qu'il existe des assistants à l'intégration scolaire qui sont chargés d'accompagner les jeunes élèves. Aujourd'hui, combien y a-t-il au DIP?
Donc il y en a une trentaine au DIP, dans tout le DIP. Il y en a beaucoup à l'école primaire, en fait. Quelques-uns aussi. Et nous, par exemple, au secondaire 2, on en a 3, mais pas à plein temps, à temps partiel, qui viennent justement, principalement avec les personnes malvoyantes, pour aider dans certains déplacements. Voilà. Donc, c'est des personnes qui viennent, qui font pas de la pédagogie. Hein. C'est pas, ils viennent pas enseigner ou font pas des cours d'appui. C'est vraiment dans ce qui est plutôt des gestes quotidiens, des déplacements, voilà.
Est-ce que les parents de ces élèves ont leur mot à dire quant à l'orientation de leurs enfants dans le secondaire notamment?
L'orientation, elle se fait en fonction de où l'élève va être admissible. Après, ben, l'élève, qu'il soit porteur d'un handicap ou pas, enfin, les parents, ils ont les mêmes... les parents, bien sûr, si les mineurs, c'est les parents qui ont cette responsabilité-là. Et ils peuvent, bien sûr... Il n'y a pas de différence entre tes parents, c'est ça que je veux dire, quoi.
Pour les auditeurs qui nous écoutent, pourriez-vous expliquer la procédure pour faire partie du dispositif de l'école inclusive?
Alors, juste, voilà, on ne fait pas partie, il n'y a pas un dispositif de l'école inclusive. Quoi. L'école inclusive, c'est un concept qui, après, vient... qui vient après, il y a plein effectivement de structures qui vont faire que l'école elle est plus ou moins inclusive, quoi. Alors par exemple, si c'est vous parlez de nos élèves, comment ça se passe pour qu'ils aient des aménagements? Donc en fait, ils sont informés déjà dans la 11e du cycle, où ils ont dit voilà, votre enfant va arriver au secondaire 2, s'il y a un trouble, s'il y a quelque chose de particulier, vous devez faire la demande. Donc ils font une demande à l'école. Dans l'école de leur enfant, le collège, le CG, etc., avec une attestation médicale et voilà, et avec une, généralement ce spécialiste qui fait part des aménagements qui ce serait bien d'avoir pour cet élève-là, quoi. Après, pour toute façon, pour les grosses situations dont on parle, la malentendance, la malvoyance, etc., les cycles d'orientation, par exemple, nous transmettent avant les situations pour qu'on puisse mettre en place des choses, parce que c'est plus conséquent.
Et pour finir, avez-vous un conseil ou une recommandation à nous faire, et à nous les jeunes, afin de garantir une intégration optimale de tous et toutes dans les écoles publiques?
Je dirais la tolérance, de l'empathie, c'est-à-dire de se mettre des fois à la place de l'autre, et des tout petits gestes, tout simples, qui peuvent vraiment aider l'élève qui est porteur du trouble, proposer de manger avec lui à la CAF, de l'aider à porter, je pense à ceux par exemple qui ont des problèmes moteurs ou d'aider à prendre des notes. Enfin, pour moi, c'est de soutenir au quotidien, mais même avec des tout petits gestes, des tout petites choses que l'élève il se sente intégré, faisant partie du groupe. Je pense que c'est ça le principal.
Merci Madame Quentin. Je rappelle que vous êtes responsable du secteur des élèves à besoins spécifiques du secondaire 2 au DIP. Vous étiez avec nous dans l'émission des griots de l'espace entreprise.
Voilà, il est déjà temps de nous quitter.
Nous vous remercions, chers auditeurs, auditrices, de nous avoir écoutés et nous nous réjouissons de vous retrouver très vite pour une nouvelle émission.
Savez-vous que cette émission contribue à nous former?
La préparation, la documentation nécessaire aux entretiens, mais aussi les entretiens et le montage de cette émission sont entièrement réalisés par des apprentis employés de commerce.
Grâce à cela, nous apprenons de nouvelles compétences, comme de mener un entretien, traiter des documents ou encore la maîtrise de nouveaux outils.
Ces compétences sont importantes pour notre avenir.
Alors merci à vous, chers auditeurs, auditrices, de votre fidélité.
À bientôt.